Mathieu.
Blanc, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Blanc large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Claude Bechtold, bonjour.
Bonjour Florian.
Vous me recevez, vous nous recevez avec Cello à Ollon, un peu au-dessus d'Ollon, lieu de paradis. Hein.
Aux fontaines sur Ollon,
oui. Les fontaines sur Ollon. J'ai pas vu les fontaines d'ailleurs en venant. Il y en a ou pas ?
En fait, non. Les fontaines, c'est parce que c'est un lieu de source fontana. C'est source en latin, comme disait André-Paul Zeller qui habitait ici. Le mari de Germaine Zeller, ma marraine. Et donc, j'étais dans la maison de ma marraine où j'ai passé mon enfance.
Bon, vous êtes chablaisien, vous êtes grandi du côté de B, hein, oui. Vous êtes aujourd'hui cinéaste, photographe. On va parler d'un film, Riverboom, qui est dans la programmation de Cinédoc, qui sera aussi au Vif. Le Chablais, pour vous, c'est l'enfance ?
Ah oui, c'est toute mon enfance. Moi, je suis né à Lausanne, dans une clinique lausannoise, mais j'ai grandi à B, en fait. Donc, je suis bellerin. Et j'ai fait toutes mes classes à B jusqu'à 15 ans.
Ça veut dire, après vous êtes parti, hein, on le verra.
Après j'ai fait mon bac à Lausanne, ouais, mon gymnase et puis mon école d'art à Lausanne, à l'ÉCAL.
À l'ÉCAL, et puis il y a eu Paris.
Alors oui, ensuite je suis parti, ensuite j'ai voyagé, j'ai vécu à Vevey ensuite, et puis ensuite je suis parti en Iran, en Afghanistan, en Irak, j'ai vécu en Chine, et quand je suis rentré, j'ai passé une année à Lausanne, et ensuite j'ai rencontré ma femme, que j'ai épousée, et j'ai vécu 10 ans à Paris.
Voilà, exactement. Bio comme ça. Ouais. Bon, c'est un point d'ancrage ou c'est un point de vie maintenant, Ollon ?
Alors, j'y vis avec mes enfants et ma femme, depuis 3 ans. Après avoir vécu 10 ans à Paris justement, mais c'est l'endroit où c'est mon point d'ancrage en général, c'est de là que je partais en voyage, c'était ma base en fait. Ma marraine y a vécu jusqu'à 97 ans et je m'en suis occupé pour la dernière partie de sa vie. Et j'ai racheté la maison d'ailleurs de son vivant pour pouvoir m'occuper d'elle. Et donc c'est un endroit où je viens depuis que je suis tout petit.
Bon, j'ai un peu voyagé aussi et je vais vous poser la question. Moi, je me suis rendu compte que mon coin de pays était beau quand je me suis mis à le quitter pendant des longues durées. Ça vous a fait ça aussi ?
Oui. Tout à fait. Moi, je suis rentré... D'abord, non, quand j'étais tout petit, je pensais que... Enfin, vraiment, pour moi, B, c'était l'endroit le plus beau de l'univers. Et parce que c'était dingue, en fait. Moi, j'ai une enfance à B qui était extraordinaire. Quand je vois maintenant l'école de mes enfants à Paris, ici, c'était vraiment Montessori avant l'heure, en fait. Moi, j'avais des profs extraordinaires à B. On était tout le temps dehors. On passait des semaines au chalet de l'Arbalès. On allait skier. On prenait le train. Enfin,
pourtant, c'était pas la mode à l'époque. Hein. C'était un petit peu une parenthèse dorée. Alors, parce que...
Ça n'a jamais été la mode.
Ça l'est aujourd'hui à la mode.
Ouais, mais c'est ça. Moi, j'ai toujours. On a toujours été les plouques de tout le monde à B, dans le canton de Vaud. C'est l'Est, hein. C'est la grande histoire de l'Est. Mais
les marches du royaume. On est loin.
Ouais,
loin
faire venir les Lausannois jusqu'à B, c'était toujours compliqué. Parce qu'ils avaient peur
de se tâcher.
Ouais, je sais pas. Et moi, quand Serge Michel, qui est dans le film, qui est mon associé et ami, a fondé le Bondi Blog dans le 9-3, on s'est vraiment retrouvés avec les gars du 9-3 parce que eux, c'est aussi la banlieue de Paris, donc c'est les plouques des Parisiens. Et moi, on a vraiment la même mentalité en fait. C'est une mentalité de série B. Et moi, je me suis toujours senti très bien, en fait.
Donc, vous avez participé à l'aventure du Bondi Blog ?
Oui, de loin.
Enfin,
mais
peut-être ce que c'est, hein, c'est de faire du journalisme vraiment local dans une banlieue française, ce qui n'avait jamais été vu, en fait.
Parce que après, c'était pendant les émeutes dans les banlieues françaises, et Serge, qui était... responsable du bureau étranger, en fait, enfin des affaires étrangères, disons, à l'hebdo, avait décidé de s'y installer. Donc, il a loué un appartement à Bondy. Et il a découvert une ville et un univers qui était assez extraordinaire et qui n'était pas du tout couvert par la presse parisienne. Parce que tout comme les Lausannois ont du mal à venir à B, les Parisiens avaient beaucoup de mal à aller dans
la banlieue est un magma avec ses clichés.
Voilà,
tout, quoi.
Exactement. Ouais. Donc en fait, quand ils ont fait un livre et quand ils ont inauguré le livre, ils l'ont lancé justement à Bondy. Et les journalistes de Paris qui couvraient les émeutes depuis 30 ans
sont venus avec des gilets pare-balles.
Lui avaient demandé comment on y allait en fait. Alors que c'est 4 arrêts de RER. Ouais. Et c'est, maintenant, ma revanche, c'est que la revanche des séries B, c'est que moi, mes amis parisiens, ils adorent venir ici, en fait. Parce que pour eux, Lausanne, c'est une ville de province, alors qu'ici, c'est le paradis. Donc, moi, j'ai plein de copains lausannois qui ne s'arrêtent pas à Lausanne, mais qui viennent nous voir chaque année ici, en fait.
Bon, vous avez évoqué Serge Michel, un des acteurs de ce film que vous présentez dans la, comme je l'ai dit, à la fois au VIF, le festival de comédie de Vevey, et dans le cadre de la programmation de Cinédoc. Alors déjà, moi, je me suis dit, tiens, un film qui est à la fois à Cinédoc et au Vevey International Funny Film Festival, curieux. Et en effet, j'ai appris des trucs et je me suis marré.
Oui, en fait, c'est un documentaire cinéma. C'est un format un peu hybride qui existe surtout en Suisse et qui, en général, n'a pas une grande carrière, en fait. Et en fait, on a trouvé un public en France. Et on est passé à la fois au FIPADOC, qui est le grand festival de documentaires en France, et au Premier Plan d'Angers, où là, on a eu le prix du public, alors qu'on était le seul documentaire et que les 13 autres films qui étaient en compétition étaient des fictions. Mais c'est un documentaire qui fonctionne un peu comme une fiction, en fait.
Oui, on va en parler. Ça s'appelle River Boom. Moi, je conseille vraiment de le voir. J'ai adoré ce film parce qu'à la fois, il y a quelque chose d'innovant dans le montage, dans la façon de raconter une histoire, tout en faisant du documentaire sur une situation qui date. Hein. Le pitch, si je puis dire, c'est trois gars, deux d'abord, puis trois, qui se trouvent en Afghanistan pour faire du reportage journalistique au début de ce siècle, quand les Américains ont décidé de faire la guerre en Afghanistan.
Oui, c'est après le 11 septembre, donc il y a une opération internationale, hein, en fait, c'est pas seulement les Américains, là vraiment tout le monde est là, l'OTAN, les Australiens, tout le monde va en Afghanistan, ils chassent rapidement les talibans, et il s'agit ensuite de reconstruire le pays. Et donc Serge et Paolo, Paolo qui est un photographe canado-hollandais mais qui a grandi à Florence, donc il parle italien avec un accent italien, il parle français avec un accent italien. Serge et Paolo décident de faire le tour du pays par une vieille route qui existe quasiment plus, enfin, qui est à moitié disparue, qui est la route qu'a pris
Ella Maillard
en 1939. Dans La Voix cruelle, elle raconte cette traversée, elle le fait dans l'autre sens avec Anne-Marie Schwarzenbach. Et donc, eux, ils veulent voir si ça marche vraiment sur le terrain, en fait. Parce qu'à Kaboul, il y a des milliers de journalistes, il y a des milliers d'occidentaux, il y a plein de conférences de presse qui promettent monts et merveilles. Et Serge, il croit ce qu'il voit et il dessine ce trait sur la carte et il le suit. Et donc, on va voyager pendant un mois et demi autour de l'Afghanistan, en fait, jusqu'à revenir à Kaboul.
Vous n'êtes pas journaliste, comment vous êtes embarqué là-dedans ?
Moi, je suis là par accident, en fait. Paolo veut devenir photographe de guerre. Serge est déjà grand reporter depuis longtemps. Mais Serge, il habite à l'époque à Téhéran et il est en Suisse. Et il doit rejoindre Paolo à Kaboul et il y va en voiture. Et donc la route pour Kaboul...
Déjà ça paraît dingue. Hein.
Oui, mais alors dans la vie de Serge, c'est tout à fait normal. Lui, il va et il vient en Iran en voiture. Ça lui permet de traverser la Turquie. Puis on comprend beaucoup de choses sur la route, en fait. Et donc il doit y aller. Puis c'est 10 jours de route. Et puis il a besoin d'un copilote parce que c'est long de rouler seul. Et il trouve personne. Et puis finalement, il me trouve moi, en fait. Et moi, c'est un moment de ma vie où j'ai du temps et où je dis oui, en fait, d'accord, allons jusqu'à Kaboul.
Ouais, ça peut paraître oui, pourquoi pas. Et puis à Kaboul, vous vous retrouvez dans la réalité du monde. Hein. On est dans un monde instable, difficile, dangereux.
Kaboul, c'était pas vraiment dangereux. Simplement, c'était très compliqué de sortir de Kaboul, en fait. C'est-à-dire que de sortir de Kaboul pour rejoindre un autre pays parce que il y avait plus de vols internationaux. L'aéroport avait été bombardé, les avions étaient détruits et il fallait qu'on ait tout d'un coup des visas de sortie. Et moi, j'avais eu un visa pour passer par l'Iran. Donc, c'était assez simple d'avoir un visa depuis la Suisse pour entrer en Iran et ensuite sortir en Afghanistan. Mais ensuite, pour obtenir le visa retour, c'était extrêmement compliqué. J'ai vu ce que c'était.
Parce que les autorités sur place avaient éclaté. Hein.
Mais parce qu'il y avait des milliers de gens devant les ambassades et qu'il fallait faire la queue durer une semaine.
Bon, du coup, vous deviez faire le taxi et puis vous êtes resté. Vous avez fait l'aventure avec eux et avec un caméscope.
Oui, donc finalement, c'était plus simple de rester avec eux plutôt que de rester tout seul à Kaboul coincé. J'ai décidé de monter dans la voiture. Il restait une place de libre puisqu'il y a toujours un chauffeur, un traducteur et une banquette arrière. Et sur la banquette arrière, il y avait Serge, Paolo et puis une place de libre. Et Serge et Paolo, Paolo était pas très content au début, mais Serge était très content parce qu'il utilisait cette place de libre. Il déteste le gaspillage. Puis je pense que secrètement, il avait envie que je fasse le voyage avec eux. On s'entendait bien. Et il pensait, je pense, un jour, je raconterai l'histoire du voyage.
Mais bon, vous n'étiez pas caméraman, vous n'étiez pas cinéaste, vous avez pris ce caméscope, puis vous avez essayé de l'utiliser, quoi. C'est ça l'aventure de ce film, c'est assez dingue.
Oui, c'est-à-dire qu'avec Serge, tout est simple, en fait. Et ici, moi, j'ai fait les cales, donc je l'ai fait en graphisme, en typographie. Et je sais que les études de cinéma, c'est quelque chose de très, très compliqué. On me disait toujours que c'était extrêmement compliqué. Chaque fois qu'on parlait d'une idée de film, parce que moi, j'ai toujours été un passionné de cinéma, on disait attention. Et on commence toujours par plein de problèmes. Et Serge avait une espèce de raccourci délirant où il disait ok, va t'acheter une caméra, ok, maintenant t'es un réalisateur. Et puis il m'avait fait ma carte de visite. Et donc j'étais tout d'un coup réalisateur pour la radio-télévision suisse romande.
Et, usurpation.
Usurpation
de titre. Hein.
Et donc j'ai fait un raccourci. Au lieu de faire 10 ans de formation, j'ai eu 10 minutes, j'étais bombardé réalisateur.
Carte de visite, voilà. Et l'achat d'un caméscope dans le bazar. Hein. Vous ne l'aviez même pas pris en partant de Suisse.
Non.
Fait.
Et le plus drôle, c'est qu'en fait, le pire endroit pour être un faux caméraman, c'est l'Afghanistan. Parce qu'à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le commando Massoud avait été assassiné par des faux journalistes. Et donc, le grand truc en Afghanistan, c'était que des journalistes se présentaient et dans la caméra, il y avait une bombe. Et donc, ils étaient très attentifs aux vrais ou aux faux journalistes. Et donc, ils fouillaient les caméras. La caméra devait tout le temps tourner. On devait vraiment mettre des cassettes dedans. Donc, moi, je ne pouvais pas faire semblant, en fait. Ils connaissaient bien le matériel et il fallait vraiment que je filme tout le temps, en fait.
Vous avez eu peur pendant cette aventure? On va y venir très brièvement parce qu'on arrive à la fin de la première partie, puis on va recommencer là-dessus.
Oui, moi j'ai toujours vécu dans une tradition de voyage. Mes parents étaient des grands voyageurs, mais moi j'ai toujours été j'ai toujours détesté partir, voilà. Le départ c'est toujours difficile et j'ai toujours aimé le confort, et donc moi je suis quelqu'un de peureux naturellement, je suis pas un aventurier, et donc moi j'ai eu très peur en fait, mais eux-mêmes avaient pas tellement peur, c'était des vrais journalistes qui savaient comment faire leur travail. Moi j'avais juste pas l'habitude de voyager comme ça, donc évidemment moi j'ai peur, mais c'est parce que j'ai les yeux d'un Suisse qui aime les assurances et les garanties.
Mais on verra que cette peur a une importance dans le scénar, hein, parce qu'il y a un scénario dans ce film, River Boom. On va en continuer à en parler.